pour investir, le placement à suivre.
Julien Nebenzal d'Itoro qui est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Antoine.
Bon, alors c'est vrai qu'on est dans une thématique de réexamen de tout ce qui nous est arrivé au premier semestre. Beaucoup de choses. Beaucoup de biais psychologiques. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'IA qui nous a un petit peu mis des œillères sur tout ce qui se passait ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Il s'est passé énormément de choses qui ont vraiment touché nos biais comportementaux vis-à-vis des marchés. Est-ce qu'on peut reprendre un petit peu les principaux dossiers qui ont animé ce premier semestre ? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, Julien.
Alors oui, alors au niveau macro, les biais qu'on peut avoir collectivement, il y a un sujet qui a été un peu un fil rouge de notre émission, je pense, au moins une fois sur trois, d'une manière ou d'une autre, on a dû en parler. On avait commencé en septembre à définir ce qui se passait dans un environnement de volatilité basse, parce que c'est un peu un classique des marchés aussi, évidemment. Et puis la volatilité est en général plus basse. On va dire de fin octobre jusqu'à courant avril. Donc on était devant ce moment-là. Et la volatilité basse, ça nous pose toujours la question de la complaisance. Quand la volatilité est basse, est-ce que ça génère un des biais les plus dangereux, en fait, collectivement, qui est le biais de complaisance? On était revenu là-dessus à l'occasion de la séquence du Venezuela en tout début d'année, pour plutôt décrire la situation comme une accoutumance plutôt qu'une complaisance. L'accoutumance par rapport à des événements géopolitiques, par rapport à des surprises. Et puis surtout, on avait pu voir à ce moment-là que la notion de complaisance, on l'a vu dans deux, trois émissions, en fait, ça n'est pas quelque chose qui arrive spontanément, c'est quelque chose qui se construit. La complaisance ne vient pas en une semaine ou en deux semaines, elle prend toujours, si on regarde l'histoire du sentiment boursier, elle prend toujours plusieurs mois, plusieurs trimestres à se construire. Et pour qu'elle se construise, il faut qu'il se passe un peu ce que nous avons vu au cours de cette année, c'est-à-dire une succession de nouvelles qui, a priori, sont un peu préoccupantes, et puis, régulièrement, les marchés d'actions, les marchés à risque, se tiennent bien et arrivent, dans la plupart des cas, à faire de nouveaux sommets. On a pu voir, au mois de juin, qu'on avait peut-être un signal, cette fois-ci, de complaisance qui se mettait en place, puisque quand on observe les constructions des bulles financières au cours des, on va dire, 2-3 siècles passés, il y a beaucoup de littérature là-dessus, on a avec l'intelligence artificielle à peu près 80% de ce qui se passe dans une bulle. Donc c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, non pas que nous avons fait un sommet quelque part, que ce soit sur les valorisations générales des actifs risqués ou de l'IA en particulier, parce que le principe de la bulle, c'est qu'on ne connaît pas le niveau de prix là où s'arrête la dynamique, mais c'est que les déterminants d'une bulle sont quand même bien présents autour de ce concept. Voilà ce qui nous a, je pense, mené essentiellement. Après, je dirais qu'il y a eu deux événements importants, ça a été évidemment la guerre au Moyen-Orient, et puis le surgissement en termes de performance, pas en termes de concept, le surgissement en termes de performance à partir d'avril-mai, de tout ce qui était relié à l'intelligence artificielle, pas uniquement les entreprises qui produisent les LLM, mais tout l'environnement qui va avec. Et on a eu une performance du Nasdaq de l'ordre de 20%, mais qui n'était pas liée au traditionnel GAFAM auquel on avait été habitué pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc quelque chose qui a été véritablement ici un contre-pied, ce qui rend les choses plus difficiles à lire d'une certaine manière, hein. Le choc pétrolier qui finalement n'a pas beaucoup d'impact sur les économies, et puis la survenance de l'IA en tant que nouveau vecteur de développement économique. Là-dedans, on peut juste faire la synthèse en disant que finalement sur un an, si on repart en juillet de l'an dernier et qu'on est aujourd'hui, les actions ont gagné entre 10 et 20% en Occident, selon qu'on regarde l'Europe ou les USA, évidemment plus aux USA, du fait de la composante technologique, et un peu plus dans certaines zones. Alors, je n'ai pas qualifié d'émergentes, mais des zones qui étaient probablement, qui recevaient moins l'attention des investisseurs. C'est valable pour la périphérie de l'Europe, c'est valable pour l'Asie aussi. Et donc, on a une forme de diffusion qui s'est passée cette année, au travers de différentes rotations sectorielles, de la performance des marchés à risque, donc les marchés d'actions. Alors que dans le même temps, les marchés taux restaient certes élevés, mais stables. Ça, c'est important à retenir. Ils sont à des niveaux élevés qui normalement, je ne vais pas dire bloque la progression de la valorisation, mais interroge la question de la valorisation quand les taux restent si élevés. Et de l'autre côté, on a eu le retour en arrière, la correction à la fois du Bitcoin pour la partie évaluation du sentiment monétaire, et puis le retour en arrière aussi de l'or après un parcours qui a été phénoménal. Donc voilà ce qu'on peut donner comme tableau. Je crois qu'on a construit quelque chose qui est un peu classique dans un marché haussier, une succession de rotations sectorielles, une accoutumance à des événements extérieurs, et probablement le début, on peut le dire maintenant, en tout cas moi j'avance cette idée, le début d'une forme de complaisance avec notamment les déterminants d'une bulle autour de l'intelligence artificielle.
Oui, on a l'impression que c'est quelque chose de lancinant qui nous poursuit, on en a parfaitement conscience et on travaille avec, et c'est assez fou. Sur la deuxième partie de l'année, alors vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous avez quand même à l'esprit certains biais comportementaux par rapport à ce qui nous est arrivé sur le premier semestre. Quels seront les sujets, à votre avis, qui seront sur la table en matière de dynamique ?
Il y a deux points qu'on peut dire en termes de comportement collectif. Le premier, c'est que la deuxième année de l'élection américaine n'est pas la meilleure des quatre années. C'est pas des moments particulièrement enthousiasmants historiquement. Alors, ça ne signifie pas que chaque deuxième année du mandat présidentiel est mauvaise, mais on sait qu'on regarde les performances depuis, je crois que c'est un peu plus de 100 ans maintenant qu'on a cette observation du mandat présidentiel et de la bourse. On sait qu'on n'est pas très bon. On sait aussi que la période, alors toujours se méfier l'été, les petits problèmes de liquidité qu'il peut y avoir, qui peuvent générer des petits trous d'air, de la volatilité. Mais surtout, on se rappelle de septembre-octobre qui, en tout cas du 1er septembre jusqu'au 15 octobre, c'est pas tout le mois d'octobre, du 1er septembre au 15 octobre, on a parfois des manifestations d'humeur. Donc on va regarder ça attentivement. En général, quand ça se produit, ça, on a déjà des premiers signaux en juillet. Donc il faudra regarder en juillet si on est dans cette... pas de dire de complaisance, mais dans cette volatilité très basse et cette très bonne organisation des marchés avec les rotations sectorielles, ou si on commence à avoir un accident. Je pense que si on a un accident ou deux en juillet, ça voudra dire d'être attentif pour la période septembre-octobre. Après, sinon, le contexte global, c'est toujours le contexte géopolitique qui prime. Je pense que tout le monde l'a bien vu, que ce soit la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Europe, les attitudes successives de Trump, à peu près tout concourt à une sorte de conflit global et multipolaire. Hein, c'est un conflit multipolaire, ce qui le rend encore plus compliqué à comprendre. Et il n'y a absolument aucune raison pour que ça s'arrête naturellement. Comme il n'y a pas de retour à la moyenne dans ces cas-là. Hein. La direction est toujours la même. Ça ne fait que s'amplifier et prendre de nouvelles formes. Donc, on ne sera pas surpris si on voit dans la deuxième partie de l'année le développement de ce sujet. Maintenant, on a eu aussi en fil rouge de ces émissions au cours de l'année passée, l'importance de connaître les biais. Là, cette fois-ci individuels, je parlais beaucoup de collectifs des biais individuels, c'est-à-dire l'excès de confiance que l'AMF a décrit au troisième trimestre l'an dernier hein, dans un rapport. On avait pu faire une émission là-dessus. Mais là, l'excès de confiance, évidemment, on peut s'en préoccuper aujourd'hui. Mais il y a aussi ce que j'avais dit, le biais de statu quo, la procrastination, c'est-à-dire je ne sais pas trop ce qui se passe, alors je ne fais pas grand chose. Alors, entre ne rien faire et se dire que tout va très très bien et investir tout ce qu'on peut, il y a évidemment le bon mi-chemin qui est celui qu'on peut utiliser, enfin, qu'on peut prendre en utilisant la finance comportementale. Je l'ai abordé notamment au travers des PER pour toutes les personnes qui ont moins de 55 ans, moins de 45 ans, c'est encore plus évident, alors moins de 35 ans, c'est une palissade. Il est très important d'ouvrir des plans d'épargne retraite et de commencer avec des petites sommes, mais surtout en commençant les versements programmés, c'est-à-dire de verser chaque mois une petite fraction. J'avais dit que si on versait pendant 30 ans, c'était un exemple, 10% de son salaire net dans un PER, on avait l'équivalent d'une retraite. On avait à la retraite l'équivalent d'un salaire plein à 100%. C'était une illustration du sujet. Mais sans aller jusqu'à 10%, déjà de commencer à mettre en place ces systèmes d'épargne retraite, d'utiliser pour certains la fiscalité, pour l'autre le côté contraignant du PER, c'est-à-dire l'argent, une fois qu'il est versé, on ne peut le toucher qu'à la retraite. C'est un mécanisme, là aussi, comportemental qui est intéressant, d'utiliser tout ça pour se préoccuper de ce sujet qui est central, très important, qui va sans doute être développé au niveau politique aussi l'an prochain. Mais voilà, en indépendamment, enfin en parallèle de tout ce qui se passe dans l'information et du macro, utiliser la connaissance qu'on a des biais de comportement pour justement bien organiser son patrimoine et son avenir financier.
Merci infiniment d'avoir décodé tout ça avec nous, Julien Debenzal. Dit Taureau, ce premier semestre et ce second semestre, toujours la retraite comme investissement de long terme, on ne le dira jamais assez, il n'est jamais trop tôt.